Eh ben écoute, Joël, je te laisse la parole. On t'écoute.
Bien. Bon, alors, mon propos va partir d'une actualité qui est celle du Forum Génération Égalité, qui est un forum, qui est une conférence organisée par les Nations Unies, par l'ONU Femmes et les gouvernements de France et du Mexique, qui devait se tenir en 2020 et qui, du fait de la pandémie, a été reporté à 2021. Ce forum se tient 25 ans après la conférence de Pékin sur les femmes, dont il va être question tout à l'heure. Et il s'agit, dans une certaine mesure, de faire le bilan de la conférence de Pékin et aussi de mettre à jour les orientations qui avaient été données dans la déclaration et son programme d'action. Alors, je vais développer tous ces points. J'imagine que vous avez lu l'introduction qui a été publiée sur le blog. Mes propos vont être un assemblage de vignettes historiques et thématiques en remontant le temps. Alors, j'ai prévu environ une demi-heure d'intervention, mais si vous en avez marre, vous me le dites, on s'arrêtera avant. Je vais essayer de tenir le temps imparti. Alors, je vais commencer par la fameuse conférence de Pékin, la déclaration et le programme d'action. La quatrième conférence mondiale sur les femmes, lutte pour l'égalité, le développement et la paix, s'est tenue à Pékin du 4 au 15 septembre 1995. Un forum des ONG s'est rassemblé à distance de la capitale chinoise en prélude à la conférence. Celle-ci a produit une déclaration finale et un programme d'action qui définit 12 domaines stratégiques. C'est à la tribune de la conférence qu'Hillary Clinton a prononcé cette phrase célèbre qui lui est faussement attribuée « Les droits des femmes sont des droits humains ». Le chapitre de la déclaration consacrée à la santé comprend 22 paragraphes qui abordent d'une manière exhaustive les droits à la santé des femmes et des jeunes filles, et particulièrement leur santé sexuelle et reproductive. Le Vatican a émis des réserves sur l'ensemble de ce chapitre. Si le programme d'action évoque à de multiples reprises la question de l'avortement, celui-ci n'est toujours pas reconnu comme droit universel. Du fait de la politique de l'enfant unique engagée en Chine sous Deng Xiaoping à partir de 1979, laquelle a entraîné stérilisation et avortement forcé en masse, la question de l'avortement comme droit a été écartée de peur de donner quitus à la Chine dans cette pratique. Outre l'objectif de base d'un document de consensus, beaucoup ont vu dans cette conférence une occasion de consolider et de réaffirmer les engagements pris lors d'autres conférences des Nations Unies dans un document unique axé sur le rôle des femmes. L'intégration des références au genre dans chacun des accords antérieurs dans la plateforme d'action et la déclaration de Pékin a été particulièrement importante. Selon la directrice de la fondation Heinrich Böll en Allemagne, Barbara Unmussig, avec la Convention contre les discriminations et la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur femmes, paix et sécurité, le programme d'action de Pékin forme le cadre de référence multilatéral le plus important pour exiger le respect des droits des femmes comme droits humains. La plateforme met en avant deux concepts, celui d'empowerment ou autonomisation des femmes et celui de gender mainstreaming, ou mise en perspective du genre dans toutes les politiques. Ces concepts, dans leur acception par la plateforme de Pékin, ont cependant été critiqués par des intellectuels féministes, comme le relate Barbara Unmussig, précédemment cité. Un point de discorde est entre autres de savoir si le mainstreaming ne signifie pas s'adapter aux relations sociales et socio-économiques entre les sexes, et donc de cimenter les stéréotypes plutôt que les surmonter. En outre, selon les critiques actuelles, il renvoie aux catégories hommes et femmes au lieu de les dissoudre. Ou encore, la sociologue Jules Falquet, pour laquelle l'empowerment tel qu'il est préconisé ressemble moins à une prise de pouvoir collective par les femmes qu'à un octroi d'en haut de certaines parcelles de pouvoir, L'autonomie est désormais présentée comme le résultat d'une dynamique psychologique liant identité et pouvoir dans un travail d'individualisation et d'élévation de l'estime de soi. Alors, l'année précédente, à la troisième conférence internationale sur la population et le développement qui s'est tenue au Caire en septembre 1994, une alliance est intervenue entre les féministes et le lobby néo-malthusien qui défend un contrôle de la fécondité contre l'alliance inattendue du Vatican et des États islamiques. À la différence de la conférence de Pékin l'année suivante, les organisations féministes et les ONG ont eu un accès direct à la conférence officielle et ont pu faire pression sur les délégués. Ce compromis, diplomatiquement dénommé consensus, encouragé par les États-Unis, dont la délégation était conduite par le vice-président Al Gore, aboutit au programme d'action du Caire, adopté par 156 États, qui donne une définition large des droits reproductifs, sans reconnaître l'avortement comme droit toutefois. Le programme assigne une approche féministe explicite au programme de population. C'est ainsi, je cite, « faire progresser l'égalité et l'équité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, ainsi que l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes, et garantir la capacité des femmes à contrôler leur propre fécondité, sont les pierres angulaires des programmes de population et de développement. » Selon ce texte, l'objectif des programmes de population est donc de promouvoir la santé génésique, définie comme assurant aux femmes la capacité de se reproduire et la liberté de décider si, quand et à quelle fréquence elles le font. Un programme de planification familiale est un élément approprié d'un tel programme s'il n'utilise aucune forme de coercition, n'a recours à aucune mesure incitative ou dissuasive et n'impose aucun objectif ou quota démographique aux prestataires. Et donc, le document fusionne la rhétorique féministe et les droits de l'homme en une position qui interdit les tentatives explicites d'influencer le comportement reproductif. Cependant, selon certains auteurs, un infratexte néo-malthusien est à lire dans une grande partie du document quand il ne fait pas irruption à sa surface. Ce compromis du Caire, s'il pave la route de Pékin, a été critiqué pour ses insuffisances par des organisations et des intellectuels féministes comme l'américaine Rosalind Pechesky, la brésilienne Sonia Correa ou encore la Fédération Sistersong aux États-Unis. Alors, Fédération Sistersong, c'est l'ensemble des organisations de femmes de couleur ou de minorités ethniques des États-Unis. Il faut dire que les organisations féministes du monde entier s'étaient préparées à intervenir au Caire et à y faire entendre leur voix. À partir de 1977, se sont tenues, sans être institutionnalisées, à l'initiative de diverses associations dans différentes villes du monde, des rencontres internationales sur la santé des femmes, intitulées International Women Health Meetings. En juillet 1984, lors de la rencontre d'Amsterdam, dont le thème est « Non au contrôle populationnel, des femmes décident », est fondé le Réseau mondial des femmes pour les droits reproductifs. En juin de la même année, est créée à New York la Coalition internationale pour la santé des femmes. Entre autres actions, la coalition prépare et convoque la conférence de Rio de janvier 1994, intitulée « Santé et justice en matière de reproduction ». La déclaration produite à l'issue de la conférence est un document politique d'une grande portée. Co-signée par les délégués d'organisations de femmes de tous les continents, la déclaration en 21 points aborde des questions du développement inéquitable, de la dette, des ajustements structurels, de l'environnement, de la violence et de la pauvreté, des migrations, des fondamentalismes, de la notion de famille, des droits fondamentaux, des services de santé complets, incluant les services de santé reproductive, de l'intégrité corporelle et de la sexualité, de la recherche en matière de contraception, de l'accès à l'éducation, des inégalités de genre et de la prise de responsabilité politique des femmes. Alors, je me suis permis d'énumérer les 21 points, mais c'est vraiment un texte de référence. En préambule, la conférence formule son opposition unanime à la conception de mesures de contrôle de la fécondité ou de politiques démographiques visant spécifiquement les pays du Sud, les peuples indigènes ou les groupes marginalisés dans les pays du Sud et du Nord, que ce soit en fonction de la race, de la classe, de l'ethnicité, de la religion ou d'autres critères. Ce texte n'a pas été relayé par les organisations féministes francophones, probablement du fait qu'elles n'en sont pas signataires, et qui n'a pas été, semble-t-il, diffusé en français. Il apparaît aujourd'hui oublié au profit des déclarations du Caire et de Pékin, pourtant en deçà sur le terrain des droits revendiqués, il n'a pourtant rien perdu de sa pertinence ni de son acuité. Les pensées de Thomas Malthus, donc, qui était un économiste du XVIIIe siècle, les liens entre la fécondité des ressources, donc, de Francis Galton, qui était un anthropologue du XIXe, sur la notion de race supérieure, mais aussi de personnes considérées comme progressistes, comme Margaret Sanger, une anarchiste à l'origine du mouvement pour le planning familial aux USA, et les Myrdal en Suède. Gunnar Myrdal a été prix Nobel d'économie en 1974, sa femme Alva, prix Nobel de la paix en 1982, tous les deux inspirateurs du modèle social-démocrate suédois. Donc, toutes ces personnes ont contribué à l'idée de la nécessité d'un contrôle populationnel mondial. Aux USA, comme dans les pays scandinaves, au Canada, en Allemagne, des stérilisations forcées ont été pratiquées dans certaines populations. Délinquants, déficients mentaux, tziganes, minorités ethniques, etc. La Suède et la Norvège, ainsi que le DFID britannique et le USAID américaine, ont financé jusqu'à une période récente des programmes de planification familiale de masse, incluant des stérilisations définitives, comme au Sri Lanka, en Inde ou au Bangladesh. Le Population Reference Bureau est créé aux USA en 1929. Les fondations américaines, en particulier Rockefeller et Ford, vont s'emparer de la question démographique et financer des programmes d'études et d'expérimentation. John Rockefeller crée le Population Council en 1952 et préside à partir de 1970 la Commission sur la croissance démographique et l'avenir américain. On a qualifié d'establishment de la population le réseau international de connaissances ou communautés épistémiques liées à l'aide au développement et aux politiques de contrôle de la population, composées de scientifiques, de philanthropes, de politiciens et de planificateurs de toutes sortes, qui s'est constitué dans la première moitié du XXe siècle. On ne voit plus personne, là c'est normal, ou bien on n'est plus que trois.
Écoute, tout va bien de notre côté, on te voit bien. Tout va bien.
Salut Eza.
Bon, moi, tout le monde est là.
Tout le monde est là, il y a Eza qui est arrivé, tout va bien, on peut continuer.
Je ne voyais plus que trois d'entre vous. Donc, dans ce réseau à prédominance américaine, les organisations philanthropiques privées telles que les fondations Ford, Rockefeller et le Population Council, et aujourd'hui la Fondation Gates, ont pris une place essentielle. Pour le gouvernement des États-Unis, la bombe démographique dans le tiers-monde, annoncée par le chercheur Paul Ehrlich en 1968, apparaît comme une menace pour les intérêts économiques et politiques et la sécurité du pays. Le gouvernement américain, qui encourageait les fondations à œuvrer dans le domaine de la limitation des naissances, mais ne pouvait ouvertement le faire pour des raisons de politique interne et externe, se met à partir de la présidence de Lyndon Johnson à financer ouvertement des programmes massifs de planification familiale dans les pays en développement. Les USA poussent à la création du Fonds des Nations Unies pour la Population en 1967, créent l'Institut Guttmacher en 1968. En 1974, l'année de la première conférence mondiale sur la population, à Bucarest, sort le rapport Kissinger, qui établit clairement la nécessité pour les USA de maîtriser la croissance démographique des pays du tiers-monde. Selon la chercheuse australienne Anna Balis, cette vision politique a encore cours aujourd'hui dans l'administration américaine. À la deuxième conférence sur la population à Mexico en 1984, Ronald Reagan annonce la fin de l'aide américaine aux organisations qui défendent le droit à l'avortement. Dès lors, la règle du bâillon mondial, le Global Gag Rule, imposée à Mexico, sera reprise par les administrations républicaines successives et défaite par leurs pendants démocrates. Cela ne veut pas dire que les USA se désintéressent de la croissance de la population mondiale. L'establishment populationnel maintient le cap, ainsi que les fondations qui prennent le relais de l'USAID. Après l'élection de Bill Clinton en 1993, les questions démographiques vont adopter le langage des droits sexuels et reproductifs. Alors, qu'est-ce que les droits sexuels et reproductifs? Selon un site institutionnel d'information belge, excusez-moi, je suis allé voir ce que disaient les Belges parce que ça me semble en l'occurrence bien clair et bien précis. Les droits sexuels sont relatifs à la sexualité, indépendamment du fait que celle-ci peut conduire à la reproduction. Ils consacrent le droit de chacun de décider librement de son corps et de sa sexualité, quel que soit son sexe, son genre, son orientation sexuelle, son origine ethnique ou son handicap. Ces droits concernent autant la santé que le bien-être physique, mental et social. Les droits reproductifs sont relatifs à la fécondité. Ils concernent à la fois la santé de la reproduction et celle de fécondation, grossesse, accouchement et celle de la non-reproduction, avortement, stérilité. Ils doivent permettre aux individus de décider librement du moment de la reproduction, du nombre souhaité d'enfants ou d'espacement entre les naissances. Ces droits, disent-ils, font partie des droits humains. Ils incluent le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, le droit à la vie privée ou encore le droit de ne pas être soumis à la violence. Ils reposent par ailleurs sur le droit à l'information, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour les mettre en œuvre. Pour la sociologue Arlette Gauthier, qui les a bien étudiés, les piliers de cette nouvelle gamme de droits sont indissociablement l'autonomie féminine, c'est-à-dire l'empowerment, et les nouveaux droits politiques, civils, sociaux obtenus par les femmes. Néanmoins, les programmes d'action du Caire et de Pékin ne sont pas contraignants pour les États membres des Nations Unies. L'incorporation de ces droits dans les législations domestiques reste à parfaire. L'évaluation de leur progression se fait donc en scrutant les agendas politiques des différents pays et leur application effective sur le terrain. La notion d'autonomie féminine reste, elle, difficile à mesurer. Comme le langage de la santé sexuelle et reproductive a précédé historiquement celui du droit et lui attaché, on parle de droit et santé sexuelle et reproductive, les indicateurs sanitaires sont souvent invoqués pour analyser le processus de civilisation en cours, comme l'aurait dit Norbert Elias. Les indicateurs les plus communément utilisés sont le ratio de mortalité maternelle et les besoins non satisfaits en contraception. Or, le ratio de mortalité maternelle n'est pas spécifique à une cause. On l'utilise souvent pour dénoncer l'absence de prise en charge des avortements. Il est plutôt le reflet de l'état d'un système de santé et de la pauvreté d'un pays, même s'il existe des exceptions. Quant à l'indicateur des besoins non satisfaits en contraception et planification familiale, établi par le démographe Charles Westhoff en 1978, outre la difficulté à l'établir scientifiquement, on parle d'un indicateur insaisissable, il est revendiqué à la fois par les néo-malthusiens et les organisations féministes. L'équivoque à ce sujet peut conduire à des contresens politiques. Alors, quelles ont été les suites du Caire et de Pékin? Si les conférences du Caire et de Pékin ont établi, comme on l'a vu, une nouvelle génération de droits pour les femmes, leur domestication prend du temps et parfois recule. Les déclarations et programmes d'action issus de ces conférences énoncent des principes normatifs relevant d'un droit non contraignant. Ce n'est que si ces principes sont repris dans des conventions internationales juridiquement contraignantes qu'ils deviennent justiciables. Il en est ainsi, par exemple, de la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, du protocole de Maputo de l'Union africaine, de la Convention d'Istanbul sur les violences de genre, du protocole facultatif relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La conférence de Pékin a confié à la Commission de la condition de la femme du Conseil économique et social des Nations Unies le soin de suivre et d'évaluer son plan d'action. Selon la sociologue Christa Wichterich, les nouveaux droits sexuels et reproductifs sont pris en étau dans une double dynamique mondiale, celle d'une marchandisation transnationale néolibérale et celle des régimes politiques autoritaires et religieux fondamentalistes. Nous ajouterons une troisième dynamique, celle de l'establishment populationnel qui n'a pas désarmé. Selon les rapports de force dans les enceintes nationales ou internationales, les droits progressent ou reculent. C'est ainsi que les OMD lançaient les objectifs du millénaire pour le développement, hein, lancés en l'an 2000, n'incluaient pas les droits génésiques, ajoutés seulement en 2005. De même, la déclaration de la Commission de la condition de la femme à Pékin plus 20, c'est-à-dire 20 ans plus tard, ne fait pas référence aux droits sexuels et reproductifs. Le recul des droits dans plusieurs États de l'OCDE est contemporain d'avancées dans d'autres, comme en Argentine par exemple, puisque l'Argentine vient d'adopter le droit à l'avortement. En 2011, la France, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, alliée aux États-Unis et appuyée par la Fondation Gates, lance la conférence de Ouagadougou au Burkina Faso, à destination de 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. La conférence est multipliée de multiples actions de communication sur le thème du dividende démographique. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Elle se tient dans un contexte de racisme d'État en France, sur fond de France-Afrique, et se prolonge par le partenariat de Ouagadougou avec pour projet d'accroître, dans les pays concernés, le nombre d'utilisatrices de formes modernes de contraception de 2,2 millions en 9 ans. Alors je vous rappelle que Brice Hortefeux était ministre de je ne sais plus trop quoi, de l'identité. Il y avait plein de manifestations de racisme d'État. Il y a eu la conférence de Grenoble, il y a eu plein d'événements qui le démontrent très bien. L'année suivante, c'est au tour de David Cameron, Premier ministre britannique, de convoquer le sommet de Londres sur le planning familial de 2012. Ici encore, la Fondation Gates se met avec d'autres organisations philanthropiques au service du projet d'accroître de 120 millions le nombre d'utilisatrices de moyens de contraception moderne dans 60 pays les plus pauvres en 8 ans. Les moyens de contraception promus sont ce qu'on appelle des LARC. LARC, c'est un acronyme britannique qui énonce Long Acting Reversible Contraceptif ou contraceptif à longue durée d'action, comme le dépôt Provera, expérimenté et développé sous le nom de Sayanapress, ou encore des implants contraceptifs comme le Jadel. Ces LARC sont, selon Melinda Gates, plébiscités par les femmes très pauvres. Alors elle dit ça au journal Elle dans un interview qu'elle a donné en marge de la conférence de Londres. Le partenariat qui s'ensuit, appelé FP2020, Family Planning 2020, associe État, ONG, fondations et laboratoires pharmaceutiques auprès desquels des achats anticipés sont effectués. Pour justifier ces nouvelles opérations malthusiennes de grande ampleur, à côté des arguments économiques traditionnels sur les économies d'échelle réalisées, sont mis en avant les droits sexuels et reproductifs dans leur version restreinte de l'accès à la contraception, ainsi que l'autonomie pourrait y gagner les femmes et les filles. Ainsi que l'on donnait en Inde et au Bangladesh en compensation un poste de radio aux femmes et aux hommes pauvres qui acceptaient d'être définitivement stérilisés, on leur fait aujourd'hui la promesse d'entrer dans un cercle vertueux et aux États qui les gouvernent de bénéficier d'une prime au développement appelée dividende démographique. Melinda Gates, lors de la conférence de Londres, dévoile l'horizon vers lequel s'engagent les femmes et les filles. Chaque fois, dit-elle, que les femmes ont accès à l'information sur leur cycle reproductif, sur la contraception, on brise le cercle vicieux de la pauvreté. Elles peuvent aller à l'école, devenir autonomes, créer de l'activité économique pour elles, leur communauté ou leur pays. Elle insiste par ailleurs sur les économies en dépenses sociales que cette pratique génère et sur l'intérêt des méthodes de contraception de longue durée. À sa suite, des ONG françaises affirment que les femmes qui peuvent éviter les grossesses non désirées ont plus de chances de poursuivre leurs études. Elles ont ensuite la possibilité d'entrer sur le marché du travail, d'accéder aux postes à responsabilité et de participer à la vie publique. Investir en faveur des droits sexuels et reproductifs se révèle bénéfique à moyen et long terme pour réduire les inégalités et permettre un développement socio-économique de l'ensemble de la société. Le concept de dividende démographique décrit, selon son concepteur, l'économiste David Bloom, la croissance économique potentielle résultant des changements dans la structure d'âge d'une population, à la condition que celle-ci soit articulée à un déclin rapide de la fécondité. Autrement dit, pendant la période durant laquelle le ratio entre les actifs et les inactifs est favorable et maîtrisé par une politique de planification familiale efficace, il suffit d'appliquer des mesures très néolibérales de dérégulation pour obtenir, à l'instar des pays d'Asie du Sud-Est, une croissance économique rapide. Ce discours rejoint celui que l'anthropologue Jason Eichel appelle « l'effet fille », en démontrant qu'embusqué derrière le mot d'ordre d'empowerment des femmes et des filles, se profile une stratégie engagée par le capitalisme et les institutions qui le promeuvent, de création de main-d'œuvre à bas coût, d'incitation de recours au crédit et de l'ouverture de nouveaux marchés. Il s'agit pour cela, dit-il, de remodeler les subjectivités féminines au Sud. Pour l'instant, aucune preuve n'a été apportée que l'accès à la contraception en soi réduise la pauvreté. Une équipe autrichienne a montré que la croissance économique de l'Asie du Sud-Est n'était pas tant due à la structure de la population qu'à l'éducation dans laquelle les pays concernés ont investi. À cette promesse fallacieuse s'ajoute une description négative des contextes, comme l'explique Betsy Hartmann, qui à propos de l'Afrique dénonce ce qu'elle appelle le régime d'anticipation malthusien pour l'Afrique, qui est un récit colporté par l'establishment populationnel et les chancelleries occidentales, selon lequel l'Afrique est menacée et menace les intérêts des pays de l'OCDE par la fécondité des femmes, la violence des jeunes hommes et l'incurie des gouvernements. Le récit évoque entre autres des conflits climatiques et une dégradation de l'environnement imputée à la pression démographique. Le thème de la bombe démographique avancé par Paul Ehrlich rejoint celui de l'effondrement prédit par Jared Diamond. Cette lecture apporte une rationalité puissante et genrée aux interventions humanitaires et militaires occidentales. Elle justifie en outre les accaparements de terres pratiqués à une grande échelle sur le continent. En rendant invisible l'économie politique réelle du développement africain, celle des ajustements structurels, de la dette, de la prédation et de la fuite des capitaux, est mise en route une machine antipolitique dont s'emparent aussi bien les multinationales que les bailleurs de fonds. Dans le registre de l'intervention des États sur les questions de genre figure désormais ce que l'on appelle les diplomaties féministes, qui ont vu quelques États s'engager dans les arènes internationales en défense des droits des femmes. La Suède a été le premier pays à se réclamer d'une telle diplomatie, suivi par le Canada et la France. Les deux dernières réunions du G7, instance masculine hégémonique s'il en est, ont connu une certaine surenchère dans la mise en valeur d'une parole féminine, sinon féministe. Plusieurs intellectuels féministes ont cependant critiqué cette innovation, dont les intentions ne sont pas aussi pures qu'il y paraît. C'est ainsi que la Commission des Affaires étrangères de notre Assemblée nationale, dans ses 100 propositions pour une politique étrangère féministe, indique que les pays du Sahel francophone doivent être les premiers destinataires de la politique étrangère féministe française, compte tenu des enjeux stratégiques qui les concernent, la démographie, le développement économique, la lutte contre le réchauffement climatique et contre le radicalisme religieux. Les chercheuses canadiennes Lily Thompson et Rachel Clément se demandent si les politiques étrangères féministes ne sont pas simplement la dernière exportation postcoloniale des pays du Nord. L'arrogance avec laquelle ces nouvelles politiques sont annoncées masque d'autres réalités moins brillantes pour les pays qui s'y engagent, celle du commerce des armes, par exemple, ou encore une histoire de pratiques eugénistes de violence coloniale. L'implication de la France dans l'organisation du Forum Génération Égalité s'inscrit dans cette perspective. Dans le courant de l'année 2020, l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, plus connue sous le nom d'ONU Femmes, devait, en partenariat avec les gouvernements de France et du Mexique, ouvrir le Forum Génération Égalité, rassemblement mondial qui, 25 ans après la 4e conférence sur les femmes tenue à Pékin en 1995, vise à réaliser l'égalité des hommes et des femmes et les droits des femmes et des filles. Du fait de la pandémie, les initiatives liées à cet événement sont reportées à l'année 2021. Le forum mobilise des coalitions d'action autour de 6 thèmes. la violence fondée sur le genre, la justice économique et les droits économiques, le droit de disposer librement de son corps et la santé et les droits sexuels et reproductifs, l'action des femmes en faveur de la justice climatique, les technologies et l'innovation au service de l'égalité entre les femmes et les hommes, les mouvements et le leadership féministe. À ces thèmes devant permettre de dessiner une feuille de route pour la communauté internationale, s'ajoute le projet d'un compact pour les femmes, la paix et la sécurité et l'action humanitaire, impliquant les jeunes femmes et les filles, en référence à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité du 31 octobre 2000. Le comité de pilotage du forum, composé de représentants de l'ONU Femmes, des gouvernements de France et du Mexique et de deux représentants de la société civile mondiale, vous voyez le rapport de force, a sélectionné 65 champions de différentes causes défendues, désignés parmi les États, les instances internationales telles que l'OCDE, les agences des Nations Unies, les fondations philanthropiques et les organisations de la société civile. Il n'est pas indifférent à notre propos que la France soit retenue avec entre autres le Burkina Faso comme championne dans la thématique autonomie corporelle, droit en matière de santé reproductive et sexuelle, en compagnie du Fonds des Nations Unies pour la population, de la Fédération internationale du planning familial et de la Coalition internationale pour la santé des femmes. La Fondation Gates apparaît comme championne sous la thématique justice et droits économiques, en compagnie entre autres de l'Afrique du Sud et du Mexique. Le site du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères annonce que la sélection de champions des coalitions d'action se poursuivra au cours des prochains mois pour inclure des entreprises du secteur privé et des organisations dirigées par des jeunes afin d'assurer une approche intersectionnelle et intergénérationnelle des coalitions d'action. J'ai presque terminé. Donc, le retour du malthusianisme. Malthus, dans son essai sur la population, privilégie la croissance démographique comme principale cause de la pauvreté, de la pénurie et de la guerre. Bien que ces hypothèses aient été largement réfutées par la science et rejetées politiquement par les organisations féministes coalisées dans la préparation de la conférence du Caire et de Pékin, elles font régulièrement surface. Il ne faut pas oublier que la déclaration et le programme d'action du Caire sont des compromis, des nommés consensus passés avec l'establishment populationnel. Ces conférences n'ont pas conduit à la dissolution des instances officielles du contrôle de la population, comme le FNUA, le Fonds des Nations Unies, ni à l'association d'activités des organisations privées qui y contribuent. Outre les grands programmes de déploiement de la contraception dans les pays les moins avancés, que nous avons évoqués tout à l'heure, de multiples initiatives portées par différentes organisations, les agences onusiennes, la Banque mondiale, les fondations philanthropiques, les ONG, relèvent du registre malthusien. Les justifications économiques, en termes d'enrichissement personnel, de lutte contre la pauvreté, de réduction des dépenses sanitaires et sociales et d'autres dépenses publiques, de la baisse prévisionnelle de l'aide publique au développement, du fait de la maîtrise de la fécondité des femmes pauvres par l'usage de la contraception ou le recours à l'avortement, prennent le pas sur l'invocation des droits. En conclusion de son essai sur les droits sexuels et reproductifs, Christa Wichterlich se demande comment se positionner dans les nouveaux scénarios entre le mondial et le local, entre la revendication des droits humains universels et genrés, et le relativisme culturel, contre l'instrumentalisation des droits humains des femmes par les marchés, les politiques néolibérales, le biopouvoir et les forces néoconservatrices. En tant que question de justice sociale, poursuit-elle, ces droits sexuels et reproductifs ne peuvent être séparés des droits sociaux et économiques, ni de la reconfiguration des masculinités et des féminités. Il ne faut pas être dupe de la récupération du vocabulaire des droits par ceux-là même qui contribuent à les saper, ni de l'usage des concepts d'autonomie ou d'empowerment ou encore d'intersectionnalité dans la communication institutionnelle autour du forum Génération Égalité. Revenir au contenu subversif dont ces mots étaient emprunts à l'origine signifie s'interroger sur les combats, les alliances et les plaidoyers à construire. Dans ce sens, les références à mobiliser ne doivent pas s'arrêter Déclaration et programme d'action du Caire et de Pékin, un retour à la déclaration de Rio de 1994 et à la militance qui le portait s'impose. Voilà, je vous remercie.
Super, bravo.
Merci beaucoup Joël.
Non, non, vraiment super, très, très bon exposé. Bah, la parole est à... Je peux pas dire à la défense parce que je suis pas sûr que qu'il y a à défendre une opposition au texte présenté, mais commentaires, débats. Vous êtes trois filles maintenant, tout va bien.
On ne voit plus personne.
Tu vois plus personne
Je suis désolé, je suis. Je ne suis pas un très bon orateur, donc je suis obligé de lire et c'est peut-être un peu fastidieux. Ouais, excusez-moi. Hein.
Bah écoute, non, ça c'est. Moi j'ai trouvé ça bien, malgré la visio, le son n'était pas mauvais. Non, c'est agréable à entendre, à mon sens. Qui veut réagir ? Christian, je te vois trémousser, tu es prêt à réagir ?
Non, non, pas spécialement. Merci Joël. Juste à la fin, c'est pour ma propre gouverne, je pense que tu as fait une erreur de date. Rio de Janeiro, tu dis qu'il faut revenir à Rio de Janeiro, c'est pas 1994. On est d'accord ?
Oui, alors tu dois confondre deux conférences. Hein. Tu confonds la conférence sur l'environnement qui est de 92. Moi, je parle de celle de l'IWHC, c'est-à-dire de l'International Women Health Coalition, donc la Coalition pour la Santé des Femmes,
ouais.
qui s'est tenue en janvier 1994 en préparation de la conférence du Caire.
D'accord, ok. D'accord. Donc c'était 1994, autant pour moi. Non, mais c'était juste parce que je n'avais pas compris, donc je voulais savoir. Non, ben non, après, pour lancer le débat, je ne sais pas s'il faut... Est-ce qu'il y a un débat à avoir ? Je pense que les informations que tu donnes sont quand même relativement denses, massives, et peut-être qu'il y a quand même des questions, dans un premier temps, de compréhension. C'est un peu comme ça que j'ai... Alors, bon, tu as parlé de l'establishment... La populationnelle, tu as manié des concepts sur la question du dividende aussi. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, en fait, ou s'il y a besoin de refaire un petit tour là, pour clarifier un peu ces histoires-là. Mais peut-être que tout le monde est au clair avec ça, je ne sais pas. Mais en fait, mon intervention, ce serait plutôt dans un premier temps, voir ce qui reste un peu opaque sur les notions que tu as employées, que je trouve personnellement très denses, même après t'avoir écouté plusieurs fois, en fait. Voilà.
Bon, si, je suis d'accord avec Christian, j'ai la même impression, parce que pour moi, tout est nouveau, en plus, je suis arrivée en retard, désolée. Du coup, j'ai eu beaucoup d'informations, et tout était super nouveau. Moi, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces choses-là, tous ces organismes-là qui s'occupaient des femmes. J'étais surprise, et aussi, j'étais surprise aussi de cette institution qui contrôle les naissances, je ne savais pas que l'Amérique avait aussi cette puissance-là. Arrête pas de me surprendre de l'Amérique. Du coup, ouais, j'ai pas très bien compris du coup quel est le pouvoir de l'Amérique à contrôler la population mondiale. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment connues pour moi. Donc, merci.
Juste en fait, si tu pouvais avoir en tête, Joël, mais moi c'est une proposition que je te fais, c'est qu'il me semble qu'il y a une tension perpétuelle entre libérer les femmes et réduire la fécondité. Et donc après, que l'Amérique soit là, ça peut expliquer un certain nombre de choses. Mais il me semble que pour qu'on puisse avoir un esprit un peu plus clair sur la question, il y a cette tension dans la demi-heure où Joël a parlé, entre libérer les femmes d'un côté et de l'autre côté, cette libération est complètement en tension, en dialectique perpétuelle avec réduire la, la fécondité. À toi, Joël. Ouais. Moi, je t'entends plus.
Il faut ouvrir ton micro, Joël.
Je vais revenir un peu sur l'historique. Comme je l'ai dit, les idées de Malthus et de Galton aussi sur les races supérieures, cet arrière-fond d'eugénisme-là, a inspiré des féministes, dont Margaret Sanger, qui est connue pour être une anarchiste et pour avoir fondé le mouvement mondial pour le planning familial. Elle a d'abord fondé le planning familial aux États-Unis, et ensuite elle a fondé, je crois, à Bombay, la Fédération mondiale du planning familial. Margaret Sanger a, en sa propre personne, mélangé deux courants, j'allais dire. Un courant féministe de libération de la femme, c'est clair, mais aussi un courant eugéniste et raciste. Margaret Sanger a eu des accointances très fortes avec des penseurs de l'eugénisme, des penseurs nazis identifiés comme tels. C'est au point que l'International, l'IPPF, c'est-à-dire la Fédération mondiale des associations de planning familial, a décidé de retirer son nom de la plaque des fondateurs de l'IPPF aux États-Unis. Donc Sanger est maintenant rayée des cadres, mais elle a quand même été la grande initiatrice de ces mouvements aux États-Unis au début du XXe siècle. Alors, il y avait derrière ça l'idée que il fallait réduire la fécondité des femmes pour améliorer la qualité de la race. Quoi. Grosso modo, c'était ça qui y avait derrière, tout en, effectivement, libérant les femmes d'autres tâches que celles liées à la maternité. Hein. Donc en leur permettant d'aller dans le monde du travail, etc., etc. Mais ça n'est pas une immaculée conception. Il y a cette, effectivement, comme tu le dis, cette double contrainte qui est quand même assez, assez trash, quoi. Hein, Sanger est allée très loin. Donc, voilà. Alors, les Myrdal en Suède, c'est encore autre chose. Eux, ils avaient une vision sans doute beaucoup plus moderne de la libération de la femme, mais ils considéraient que c'était une croisade à mener dans le tiers-monde, quoi, et qu'il fallait y aller massivement. Alva Myrdal a été ambassadrice de Suède en Inde et au Sri Lanka, et elle a poussé pour qu'il y ait des programmes de planification. Elle a même sans doute soutenu des programmes de stérilisation qui ont été assez massivement développés en Inde. Donc, les mouvements féministes, à partir d'un certain moment, se sont insurgés contre ça, quoi. Alors, oui, j'ai encore oublié une autre étape qui est celle de... comment dirais-je, de la création par Rockefeller, donc du Population Bureau, et de la présidence de la Commission sur la population aux États-Unis, ensuite du rapport... du rapport Kissinger de 1974, qui fait valoir que la poussée démographique dans les pays du tiers-monde est une menace pour les intérêts des États-Unis. Alors, elle est une double menace. Elle est une menace par le risque de contamination communiste, c'est-à-dire qu'en fait, cette bombe démographique qui est prédite par Paul Ehrlich, elle va bénéficier aux communistes, et donc ça, les Américains ne peuvent pas le supporter. Et en outre, elle va limiter l'accès des Américains aux richesses minières, aux richesses du sous-sol, au pétrole, etc., détenues dans les pays en voie de développement. Donc, le rapport Kissinger de 1974 considère que la limitation de la démographie des pays du tiers-monde est une orientation stratégique prioritaire pour les États-Unis. Alors, ce rapport était un rapport confidentiel qui a été considéré comme secret et n'a été divulgué qu'à partir de 1980. Gerald Ford en particulier, l'a adopté. Il y avait une orientation malthusienne des politiques étrangères américaines avant, mais ça l'a réellement conforté. Et donc, à partir de 1974, les organisations féministes se sont mobilisées contre ça. Et elles ont commencé à dire « ça suffit, le contrôle populationnel, ça suffit ». Nous, on veut décider par nous-mêmes et on veut décider nous-mêmes individuellement et non pas sous la forme d'injonctions politiques et d'injonctions sociales. On veut décider nous-mêmes de ce que l'on fait de notre corps, d'avoir ou pas des enfants, mais c'est à personne de nous dicter notre manière d'être et de faire. Ouais. Oui, je termine là-dessus. Et donc cette mobilisation des organisations féministes qui commence à partir de 1977, hein, donc peu de temps après le rapport Kissinger, elle va se synthétiser en gros à la fameuse conférence de Rio de janvier 1994, donc en préambule à la conférence du Caire. Alors entre-temps, il y aura eu d'autres conférences sur la population, mais c'est vraiment en 1994 au Caire que les féministes vont intervenir de manière concertée et massive pour énoncer cette vision. Voilà. Excusez-moi si j'ai des problèmes.
Est-ce qu'il est possible de repréciser la notion de dividende démographique ?
On ne t'entend pas ?
La notion de...
Ah, ça y est,
si, là, vous m'entendez ?
Oui, parfait.
Bon. Oui. Alors, cette notion de dividende démographique, elle a été introduite. Alors, attendez, je recherche mes notes. Voilà. Voilà. Elle a été introduite par un chercheur de Harvard qui s'appelle David Bloom. Donc c'est un économiste qui a établi une sorte de loi selon laquelle l'évolution d'une structure d'âge, donc la venue sur le marché du travail d'une population jeune, à la condition qu'elle soit formée et adaptée au marché du travail local, permet donc une croissance économique de ce pays, mais pendant un laps de temps donné. C'est-à-dire qu'il ne faut pas gâcher ce dividende en laissant filer la fécondité. Donc il faut arrêter la fécondité à un moment donné pour que cette structure d'âge de population jeune et relativement formée puisse apporter son concours au développement économique. Par contre, ce que ne disent pas les promoteurs du dividende démographique, alors en France, il y a un démographe qui s'est fortement investi sur cette question. Ce qu'il n'a pas dit, hein, c'est lui qui est derrière la conférence de Ouagadougou et le partenariat de Ouagadougou, Ce qu'il n'a pas dit, c'est que David Bloom, dans son étude sur le dividende démographique, dit bien que ça s'inscrit dans une vision très, très néolibérale de l'économie. C'est-à-dire une dérégulation totale. Et une libération des forces du travail et du marché. Quoi. Donc ça n'est pas une règle qui s'accommode en quelque sorte d'un enrichissement immédiat de la population, au contraire. Quoi. L'enrichissement, il peut venir plus tard. Et donc, cette idée du dividende démographique, elle a été fortement promue donc en France avant la mise en œuvre de la conférence de Ouagadougou par l'Agence française de développement qui a essayé de l'inculquer à un certain nombre de pays africains et de le convertir à cette idée. Donc, parallèlement à cette idée de développement économique, on mettait en parallèle la réduction de la fécondité des femmes africaines et la réduction donc de la croissance populationnelle en tablant sur la population jeune en âge de travailler, formée, éduquée, qui viendrait sur le marché du travail. C'est ça la notion de dividende démographique.
Voilà. Merci.
Et Joël, pardon, en termes d'années, la notion de dividende démographique, c'est les années 90, non ? C'est ça ?
On t'entend pas, Joël, il faut que tu mettes le son. Le micro, Joël.
Oui.
Il faut que tu recommences.
Oui, c'est ça, oui, c'est les années 80. David Bloom, j'ai les références, mais je les ai pas sous les yeux, je les donnerai plus tard. J'ai son texte, évidemment, à ce sujet, donc je pourrais vous donner la référence plus tard. C'est avant les années 90, puisque il a induit un certain nombre d'études et de recherches à partir de cette hypothèse. Et en France, c'est donc l'Agence française de développement et un démographe dont le nom m'échappe pour l'instant, mais qui est quand même très connu, mais je le retrouverai si je le recherche. Qui a fortement poussé à ce qu'il y ait dans les 9 pays d'Afrique de l'Ouest francophone une mobilisation autour de cette question-là. Quoi. Alors, ça n'a pas marché aussi bien qu'il le voulait, quoi, mais l'AFD a produit pour chaque pays d'Afrique francophone des études basées sur ce concept d'identité démographique.
Je ne peux m'empêcher de penser en corrélation avec tout le mouvement des années 80-90 autour du social business, des anciennes formes philanthropiques qui sont converties, on appelait Sugar Daddy à l'époque, comme les fondations Rockefeller, etc., qui sont converties dans les nouvelles formes philanthropiques de type venture philanthropique, qui étaient là plus pour essayer de faire changer les comportements des personnes, de les faire passer... notamment dans les pays du Sud, comme de nouveaux entrepreneurs qui pourraient intégrer les nouveaux marchés mondiaux et faire changer ça, là, façonner culturellement l'individu pour le réintégrer dans un système économique mondialisé. Je ne peux plus m'empêcher à penser à ces formes de corrélation avec un discours, en plus la dividende démographique, qui semble clairement dans cette forme de discours très, je veux dire, néolibéral. Et c'est vrai que... dans ce fil-là, moi, cette arrivée aussi progressive de la Fondation Gates, où on voit qui maintenant emploie notamment ces termes de justice, j'ai vu les droits économiques, etc., c'est sûr que ça prête à questionnement, hein, cette arrivée sur le devant de la scène est très décomplexée, en fait, dans la façon de parler de termes, notamment sur la question de la justice, etc. Voilà, c'est une petite... ça m'a fait un...
Tu as tout à fait raison, c'est effectivement de cette perversion du discours qu'il s'agit. Hein. Quand on pense que la conférence du Caire a exclu effectivement ce côté d'emprise là sur la fécondité des femmes, enfin en reconnaissant en théorie leur droit à elles de décider et à elles seules, quand on pense que les gays sont quand même financés, parce qu'ils ont contribué aussi à la conférence de Ouagadougou, mais ils ont financé cette conférence de Ouagadougou, puis celle de Londres sur la planification familiale qui allait tout à fait à l'encontre de ce qui avait été décidé au Caire. Quoi. C'est dire à quel point ils n'ont aucun scrupule à revenir sur des acquis qui étaient des acquis internationaux et contre lesquels, pour des raisons d'opportunité politique et des raisons financières aussi, les États ne se sont pas élevés. Quoi.
Moi, je peux dire un petit mot. Alors, c'est vrai que ta présentation, ça fait écho à un travail là que je viens de terminer sur suite à mon passage à Médecins du Monde sur les rapports Nord-Sud, avec la publication d'un livre bientôt là qui s'appelle Anthropologie des rires noirs que Christian montre et que je t'offrirai avec plaisir, Joël. Et du coup, dans ce bouquin, au départ, je fais un peu une sorte de d'énumération de toutes les grandes thématiques rapport Nord-Sud, donc l'alimentation, l'industrie, le médicament, et c'est vrai que si j'avais fait mon livre après, j'aurais mis un chapitre sur le féminisme. Et je crois que la présentation que tu fais illustre évidemment une mécanique plus large, celle du rapport Nord-Sud, où sous prétexte de politique, puisque là, on parle souvent de géopolitique. En fait, il n'est pas du tout question de politique, mais d'administration d'une organisation sociale, ce qu'on pourrait appeler une administration de la domination, en fait. Donc, j'ai pas mal étudié Hannah Arendt, et qui, elle, cette administration de la domination, cette administration sociale, en fait, elle nomme ça le pré-politique. Elle dit qu'aujourd'hui, on n'est pas encore au stade de la politique, on est au stade du pré-politique, où les USA décident pour le Sud, les dominants décident pour les dominés. Alors que pour elle, la politique, c'est que chacun, dans sa différence, puisse avoir une voix pour décider du commun. La politique pourrait être une administration de la pluralité plutôt, et on voit combien on est loin de la mécanique politique, en tout cas au sens de Hannah Arendt. Et en fait, on est enfermé dans ce que j'ai appelé une sorte de, enfin, je sais pas, ça vient pas de moi forcément, mais une conception naturaliste du monde, une naturalisation des personnes du Sud notamment, où on parle des personnes du Sud comme on pourrait parler d'un troupeau de vaches qu'on gère comme des animaux, c'est-à-dire des animaux juste heureux à contrôler leur utérus, juste heureux à travailler pour pouvoir manger, et dont l'existence serait finalement quelque chose de très naturel. J'avais comparé un peu ça au Hobbit dans Le Seigneur des Anneaux, là où ce peuple un peu niaisou, il a juste heureux de boire des bières et de bien manger. Et donc on sent combien on est dans une culture de ça, et combien on a intégré culturellement que finalement les gens du Sud, bon, il faut juste en occuper pour les nourrir, contrôler leur naissance, et c'est assez triste, évidemment. alors qu'on pourrait voilà travailler à laisser exister les gens enfin pour ce qu'ils sont, les laisser être, les laisser choisir leur rapport au monde, enfin leur rapport au corps, ce dont tu parles, mais surtout leur rapport au monde, les laisser avoir des stratégies personnelles d'adaptation et d'adaptation à l'environnement. Et voilà, c'est assez enfin, moi, je suis heureux d'avoir fini ce livre pour finalement pour plus parler de ces questions-là, tellement je trouve ça triste et déprimant, et tellement j'ai envie de plus parler de ça pour parler d'autres choses, de choses plus positives, c'est-à-dire bah, de travailler à cette façon d'être ensemble où on travaille à laisser l'autre exister tel qu'il est, quoi. Voilà, je sais pas si je suis très clair dans mes explications, mais en tout cas voilà, ce travail sur le féminisme, évidemment je suis content qu'on s'enferme pas dans ça n'est pas que la question de la femme, en fait c'est une question, à mon sens c'est une illustration de plus à un phénomène global assez attristant de ben oui d'une domination qui n'est même plus visible tellement elle est culturelle, et c'est ça qui est terrible, je trouve.
Et ce qui est frappant aussi, c'est de voir comme les valeurs occidentales sont toujours le scotch à double face de ces politiques, en fait. Et ça joue dans d'autres institutions et dans d'autres événements. C'est-à-dire que c'est en portant une pensée soi-disant féministe qu'on se retrouve avec des vrais, si j'ai bien compris hein, le propos de Joël, hein, des vraies politiques de domination, comme tu viens de le dire. Et toujours avec les valeurs utilisées comme des atouts, quoi, comme des atouts, et qui cachent finalement les véritables objectifs. Je trouve la présence de la Fondation Gates absolument terrifiante là, dans toutes ces tentaculaires, parce que c'est la, bon, j'en avais jamais entendu parler à ce niveau-là, mais ils sont un petit peu partout en fin de compte. Hein. Mm-hmm.
Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Gates finalement est meilleur ou est plus fréquentable que les suprémacistes blancs américains. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait...
C'est fait avant blanc, non ?
Comment dire ? Est-ce qu'on est trop nombreux sur Terre ? Parce que la question de l'instrumentalisation par les blancs qui représentent que 20%, la population mondiale, 80% c'est les gens du Sud, on va dire comme ça, fait peur. C'est pour ça que je parle des suprématismes. Et on a tous un peu cette stéréotype dans la tête, lorsqu'on est du côté, je dirais, des 20%, se dire, est-ce qu'on n'est pas trop nombreux ? Et à partir du moment où on dit, est-ce qu'on n'est pas trop nombreux, ça va très vite sur, est-ce qu'ils ne sont pas trop nombreux en face ? Parce qu'ils ne sont pas blancs et qu'à un moment donné, nous, on est blancs et on va être dominés. Donc, c'est juste pour dialectiser un peu les choses que je dis ça. Ce n'est pas simplement les dominants éternels, hégémoniques, à un moment donné, qui, effectivement, nous dépriment, comme le dit Jean. C'est-à-dire, au bout d'un moment, c'est un peu déprimant parce que les mécanismes nous semblent toujours les mêmes. Moi, je pense que les mécanismes sont en train d'évoluer de façon très importante. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui motive les suprématistes, ou peut-être Bill Gates et Melinda Gates, pour prendre ces deux exemples, hein, ou en tout cas le réseau mondial néo-malthusien, c'est autant la peur de devenir dominé que la certitude d'une souveraineté ou d'une puissance de domination qui serait éternelle. Et alors, à partir de là, il faut s'interroger autrement, c'est-à-dire, est-ce qu'on est trop nombreux ? On ne peut plus le dire à partir de ça, et il faut peut-être rappeler deux, trois choses. La première, c'est encore Joël qui m'a passé un article cet après-midi que j'ai lu. Le terme de surpopulation date des années 50, donc après la Deuxième Guerre mondiale, je dirais, le fait qu'on a perdu 20 millions de personnes à ce moment-là, c'est quand même assez étonnant. Et après, il y a l'ONU qui fait, je crois, en 62, si je dis des bêtises, Joël, tu m'arrêtes, il dit que la surpopulation est le problème mondial numéro 1 en 62. Moi, j'ai vérifié après, cet après-midi, Problème mondial numéro 1 en 62. En 62, il y avait 3 milliards à peu près d'individus sur Terre. C'était déjà le problème mondial numéro 1. On est en 2021, on est à 7,7 milliards. Donc à 3,5 milliards, c'était déjà le problème mondial numéro 1. Donc la question de la surpopulation, vous voyez bien comment elle est élastique. Hein. C'est-à-dire que dès 3 milliards et demi, on dit c'est un problème extraordinaire. Alors c'est complètement lié en fait, non pas si vous voulez au nombre de personnes qu'il y a sur Terre, mais à ceux qui captent, je dirais, la production sur Terre, qui captent les ressources. Et on a 20%, si vous voulez, des personnes qui sont effectivement occidentales, blanches, qui captent 80% des ressources, qui mettent 80%, si vous voulez, des déchets sur le monde et qui disent, si vous voulez, effectivement, aux gens du Sud, que c'est eux qui sont en trop sur Terre. Donc, moi, je trouve qu'il faudrait déplacer cette question-là sur des questions d'inégalité de ressources parce que, quelque part, en tout cas moi, je sais que la question, si vous voulez, de la surpopulation doit être déconstruite dans ma tête pour que j'arrive à penser à autre chose. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et sinon, effectivement, on a toujours ce petit Jimmy qui consiste à dire est-ce qu'on n'est pas trop nombreux ? Moi, j'entends ça de plus en plus autour de moi. Si tout va mal, c'est parce qu'on est trop nombreux.
En tout cas, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. La question, ce n'est pas de dire qu'on est trop nombreux, mais c'est de dire comment on s'organise pour décider quel doit être le nombre et comment on veut vivre ensemble. Quoi. On revient à la question de la politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune instance réellement politique où mettre tout ça au débat. Puisque c'est ce qui manque, c'est qu'il y a pas de, on a l'impression qu'il n'y a aucun lieu politique à l'échelle internationale. Enfin, au sens où j'entends d'un lieu où chaque être humain a égal pouvoir pour dire comment il voit l'organisation commune, quoi.
Vous avez des idées de sortie?
Comment?
Non, je dis, t'as donné ton point de vue, Jean, mais est-ce que d'autres pensent des choses là-dessus, enfin, nous permettent d'avancer sur ces questions, en fait, c'est ça.
Moi, je dis 10 milliards, pas plus.
Combien de pourcentage de blancs?
Je réponds pas, là.
Déjà remercier effectivement Joël pour cette présentation très dense qui moi quelque part un peu me déstabilise parce qu'effectivement c'est beaucoup de notions en peu de temps. J'ai envie de dire l'idéal aurait été même peut-être de faire plusieurs fois, limite de vous demander de revenir pour effectivement développer parce qu'effectivement ça met en relation beaucoup de choses, ça met en relation toute l'évolution, toute l'histoire qui a un impact sur les différents effectivement concepts. Ce qui ressort là beaucoup pour moi, c'est que finalement, on parle du féminisme, mais j'ai envie de dire qu'il y a un féminisme du coup à dissocier. Il y a le féminisme décolonial qui n'a pas encore eu lieu quelque part, puisque aujourd'hui, en tant que moi, femme blanche, je sens que certaines libertés ont effectivement évolué, mais je me dis que voilà, cette femme qui vit sur le continent africain n'a pas de chance en plus d'être une femme. Dans peut-être effectivement un continent pauvre et en même temps noir, où je vais me sentir en décalage par rapport à elle, puisque même si elle arrive en France, elle ne sera jamais au même statut que moi, utilisée comme un moyen de, on va dire, de travail, comme femme de ménage, ces statuts où ma mère s'est battue pour qu'effectivement on ne soit plus nous en tant que femme blanche. Donc effectivement, pour moi, il y a cette question qui ressort énormément et je ne pensais pas que vous alliez quelque part me confirmer à ce point, avec en plus ces enjeux, effectivement, de notre société actuellement mondiale où on est américanisé énormément, effectivement. Et oui, avec... moi, j'aurais voulu du coup pouvoir recevoir peut-être plus d'infos aussi sur la Fondation Gates, où c'est qu'on peut finalement avoir... enfin, obtenir des informations sur leur alternance sur le
ministre. Vous donner, ou...
Parce que je les sais aujourd'hui, voilà, très présents sur le vaccin. Je ne pensais pas qu'ils étaient sur, effectivement, ces questions
qui sont partout,
très c'est importantes. Comment dire, qui vont gouverner le monde de demain, mais justement des politiques oui, extrémistes, en fait, extrêmes. Enfin, voilà, donc on, c'était juste.
Ils sont sur l'alimentation aussi. Ils sont partout.
Ah oui.
Pour la parole, pour la Fondation Gates, il y a un Lyonnais, je crois, qui est journaliste, qui a écrit, co-écrit un livre, une enquête sur la Fondation Gates avec Shiva, Vandana Shiva. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai écouté des discussions de sa part. Voilà. Ça s'appelle l'art de la fausse, générosité. Et il paraît qu'ils ont fait une enquête avec une Indienne. Et c'est un Lyonnais, en plus.
D'autres sur les auteurs. Et du coup, sur les auteurs effectivement féministes qui réfléchissent en femme sur cette question de rapport Nord-Sud, il y a Françoise Vergès qui a sorti un féminisme décolonial. C'est très bien sur ce questionnement-là.
Oui, alors effectivement, il y a Françoise Vergès, mais il y a beaucoup d'auteurs canadiens ou américains, enfin d'auteurs femmes et hommes, qui ont écrit aussi sur ces questions. Hein. Et d'ailleurs, il y a, à mon avis, beaucoup plus de recherches et de travaux universitaires là-dessus. Chez les anglo-saxons qu'il y en a en France. Alors en France, il y a une enseignante universitaire qui s'appelle Jules Falquet, elle a un prénom masculin, mais c'est une femme. Elle a écrit des choses très intéressantes, assez radicales, à ce sujet. Hein, voilà. Et elle vient de sortir un livre, je ne fais pas de la pub pour Jules Falquet, mais j'en profite, un livre qui s'appelle « Imbrication, femmes, race et classe dans les mouvements sociaux ». Voilà, c'est édité aux éditions du Crocan.
Si j'ai bien compris, Joël, elle ne s'appelle pas Jules, elle a décidé de s'appeler Jules.
Je pense que c'est le cas, oui. Je ne sais pas.
J'ai lu un article où elle explique, tu veux, qu'à 20 ans, elle a décidé, en se baladant dans la rue, que ça suffisait, quoi. Et que pour faire une nique, si tu veux, à tout ce machisme qu'il y avait à l'époque, elle allait s'appeler Jules. Et ensuite, elle est allée travailler dans différents pays à l'international. Et s'est toujours présentée comme Jules. Et ça lui a occasionné tout un tas d'aventures assez extraordinaires, en fait.
Ouais. Génial. Tu ressens un peu plus à son sujet de moi. Oui, moi, j'ai lu pas mal d'articles d'elle. Et je viens d'acheter son bouquin qui vient de sortir, là. Et c'est très intéressant. Alors, elle est assez radicale. Elle n'est pas dans des circonlocutions de vocabulaire. Hein. Elle y va franco, quoi. Mais c'est plutôt bien.
Ouais. Ouais, mais ça, c'est...
Sinon, moi, je lis des chercheurs américains ou canadiens sur la question. Hein. Il y a toute une équipe à l'Amherst College dans le Massachusetts aux États-Unis qui s'intéresse à ces questions-là, dont le, cette unité de recherche est dirigée par une jeune femme qui s'appelle Anne Hendrickson. Et il travaille aussi Betsy Hartman, mais qui est quelqu'un qui est plus âgé, déjà très, très engagé dans les luttes féministes, et qui est très, très intéressant dans son approche. Et puis, vous avez quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle Rosaline Petchetsky. Alors, Rosaline Petchetsky est une chercheuse qui a participé à la conférence de Rio de janvier 1994. Elle a dirigé une recherche internationale sur l'interprétation de la notion de droit des femmes par les différentes, par tout un tas de femmes de différentes origines. Et c'est très intéressant la manière dont elle apprend la question des droits, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du tout dans un formalisme juridique comme nous on pourrait l'entendre, mais il y a une vision des droits qui existe et qui est partagé de manière distincte selon les origines de ces femmes qu'elle a interviewées.
J'ai une question, Joël. En fait, tu nous as parlé des vaccins contraceptifs, du Norplan, etc. Est-ce que c'est daté à une période donnée dans les 30 dernières années ou on continue à employer ce type de contraception aujourd'hui et dans quelle situation?
Alors, autant que je sache, le vaccin contraceptif, les recherches sont abandonnées pour l'instant. Par contre, le dépôt Provera, qui est un projet statif au long cours, qui a été utilisé sous forme d'implant, et avec pas mal d'effets secondaires, a été recyclé sous le nom de Sayana Press. Et ça, c'est une contraception très récente, c'est un mode de contraception très récent, qui se fait sous forme d'une injection. On vous donne une espèce de petite boîte avec une aiguille et vous pouvez vous l'injecter vous-même. Donc les femmes peuvent se l'injecter. Et c'est d'ailleurs conçu pour se passer de système de santé, en gros. C'est-à-dire qu'en fait, c'est prévu pour être distribué de manière assez large, justement dans les pays pauvres, pour que les femmes puissent s'en servir sans système de santé. À l'inverse, ça veut dire qu'on ne soutient pas les systèmes de santé. Hein. Donc les systèmes de santé, pour cette question-là, n'ont pas d'utilité. Il suffit de former un certain nombre d'intermédiaires, des agents de santé, à former les femmes elles-mêmes à l'utilisation de ça. Donc c'est un peu ça la philosophie du produit, quoi. Mais le Sayana Press, c'est du dépôt Provera, qui est un projet statif qui avait quand même pas mal d'effets secondaires et qui, en Occident, en tout cas, justifie un suivi médical, quoi. Donc l'idée de faire en sorte que les femmes l'utilisent sans aucun suivi médical, c'est quand même une vision assez particulière de la chose, quoi. Voilà. Et la Fondation Gates en a acheté des millions de doses. Hein. Ce produit a été promu à la conférence de Londres de 2012 et il y a des achats anticipés qui ont été faits auprès de la firme qui le produit, qui est Pfizer, hein, en quantité phénoménale, quoi. Alors il y a un autre contraceptif qui est le Jadel, qui est un implant, qui là aussi a fait l'objet d'achats anticipés. Le producteur, c'est une firme allemande, c'est Bayer. Donc là, c'est aussi des contraceptifs au long cours. Le problème avec l'implant, c'est qu'on l'a, on a appris aux agents de santé du tiers-monde à l'insérer, hein, donc à le mettre sous la peau, mais on ne leur a pas appris à l'enlever. Donc lorsque les femmes ont des effets secondaires liés à ce produit et qu'elles veulent arrêter, pour une raison ou une autre, elles ont beaucoup de mal à obtenir que quelqu'un l'enlève, quoi. Ça, c'est et du fait aussi que les systèmes de santé ne sont pas ni compétents ni formés pour ça, quoi.
j'ai une question, et au-delà du coup de toujours cet élément économique, on a parlé effectivement du droit de la femme à avoir son corps libre. Est-ce qu'aujourd'hui on évolue sur la réflexion aussi de la charge par rapport à l'homme, c'est-à-dire que lui aussi participe en moyen de contraception, puisque depuis tout à l'heure, finalement, vous ne citez que la femme. Elle, effectivement, elle est libre de son corps, mais en même temps, c'est elle qui porte toute cette charge de contraception. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a avancé sur aussi la réflexion par rapport à l'âme, et est-ce qu'elle doit avoir lieu ?
Non, mais c'est une très bonne question. Hein. C'est une très bonne question. C'est effectivement sur les femmes que ça repose. Quoi. Alors, des stérilisations masculines ont été pratiquées largement, hein, en Inde en particulier, au Bangladesh, irréversibles. Alors, comme je le disais dans mon papier tout à l'heure, c'est ce qui est assez... On donnait aux hommes qui acceptaient d'être stérilisés, on leur donnait un transistor, quoi, un poste de radio, hein, comme récompense, comme compensation. Mais je ne suis pas, ça fait très longtemps que j'exerce plus la médecine, donc je ne sais pas où on en est des contraceptifs masculins réversibles, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, mais... tout l'effort ou la grande majorité de l'effort repose sur les femmes. Quoi. Alors évidemment, on conseille l'usage des préservatifs. Bon, ça c'est une chose, mais l'usage du préservatif, il est surtout actuellement préconisé dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Hein, sa vision, son utilité contraceptive est un peu moins évoquée aujourd'hui. Quoi. C'est-à-dire qu'on continue de reporter la question de la contraception sur les femmes.
Oui, effectivement, il parle aussi, juste au niveau du Canada, ils sont par rapport à ça, sur la vasectomie, en fait, c'est intégré au niveau des mentalités de plus en plus. Mais voilà, c'est comme vous disiez tout à l'heure, les... anglo-saxon et canadien, donc on est loin aujourd'hui du rapport nord-sud, et on voit que finalement cet état du féminisme est à des étapes complètement différentes, et pas traité de la même manière, où qu'on soit à travers le monde.
D'autres choses? Ah, Esa, tu es revenue. C'est que tu as une question.
Non, je me demandais comment ça se fait que vous vous intéressez à cette question.
Comme Christian, je suis membre de Médecins du Monde. Et j'ai été volontaire, et puis comme Jean Fayat aussi, peut-être comme d'autres d'entre vous. Donc j'ai été volontaire, j'ai été pendant un an et demi sur le terrain au Niger, et j'ai été engagé... dans des programmes dans lesquels étaient engagés Médecins du Monde. Et il y avait des programmes qui étaient des programmes de maîtrise populationnelle, très clairement. Alors, au nom du droit des femmes, bien entendu, mais qui étaient quand même des programmes de maîtrise populationnelle, avec l'usage de contraceptifs dont on vient de parler, là, du Sayanapress ou de l'implant Javel, quoi, hein, d'un implant progestatif aussi. Et qui était donc financé par le Fonds des Nations Unies pour la population, hein, le PNUAP, et financé par la Fondation Gates, d'autres, enfin, bon, bref. Et quand moi j'y étais, à ce moment-là, je n'y ai pas vu malice, quoi, parce que on était engagé dans des actions, qu'on développait ça, on avait. On était un peu porté par le, par le programme, avec des objectifs à atteindre, enfin, un certain nombre de choses, quoi. Et en fait, c'est Christian qui m'a amené à réfléchir à ça, quoi. Il m'a emmené sur le terrain de... sur la question de l'éthique du CAIR, parce que bon, on a été amené à travailler sur les questions de l'éthique des interventions humanitaires dans certains contextes. On a travaillé au Liban, sur le Liban, et puis à partir de la question de l'éthique, moi j'en suis venu à travailler cette question des droits sexuels et reproductifs et de ce que ça recouvrait, quoi, hein. Voilà, mais je ne suis pas un expert de la question, c'est une compilation de textes auxquels j'ai eu accès et des interrogations sur mes pratiques qui m'ont conduit à ça, quoi. Voilà, hein. Voilà, et aujourd'hui, nous tentons, Christian et moi, d'amener l'Association Médecins du Monde à prendre en compte toutes ces questions et à introduire l'éthique, une approche de l'éthique qui serait une éthique féministe au sein de l'association. Voilà.
Et du coup, je me demandais, est-ce qu'on a...
J'ai pas bien entendu.
Bon, ben, je crois que ça fait beaucoup. Alors, vous me demandez si en Afrique, il y a des mouvements.
Coupez vos micros, Christian, coupe ton micro.
J'ai toujours pas compris.
Du coup, ça fait des mouvements.
Je suis désolé. Mais est-ce que moi vous m'entendez?
Peut-être, Joël, on coupe tous nos micros quand Elsa parle et puis après tu remets ton micro.
Alors, je me demandais en fait s'il y a eu des mouvements féministes en Afrique qui sont rebellés contre ces politiques-là. Est-ce qu'elles ont eu aussi leur mot à dire ou c'est plutôt des mouvements féministes dans des pays occidentaux qui ont parlé de cette question, enfin, qui se sont emparés de cette question?
Oui, alors il y a eu bon, en fait les deux dernières opérations, là, celle du partenariat de Ouagadougou et celle de la conférence de Londres, il n'y a pas eu énormément de réactions féministes pour l'instant. Quoi. Pour l'instant, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Il y a eu des réflexions féministes qui se sont manifestées au moment de la conférence du Caire. C'est à ce moment-là que les organisations de femmes du monde entier sont intervenues et ont fait valoir leur vision des choses et ont exprimé leurs droits. Mais depuis cet événement-là, il y a eu une récupération, en quelque sorte, du mouvement féministe dans le discours. Et au moment de la conférence de Londres, c'est assez flagrant, quoi. Melinda Gates, elle fait référence aux droits des femmes pour lancer un programme qui est un programme malthusien, quoi, de contrôle, hein, c'est clair. C'est clair. Donc, voilà, quoi. Il faut vraiment se méfier de ça, quoi. Il y a une récupération du discours féministe pour des actes qui sont contraires à l'intérêt des femmes. Alors, il y en a qui sont pas dupes, mais il y a des organisations qui se font circonvenir, quoi. Dans la conférence qui est prévue là, cette année, sur les 25 ans après Pékin, On arrive à mettre dans un même panel des organisations qui étaient hostiles autrefois à cette instrumentalisation du droit des femmes, quoi. Et les organisateurs actuels, donc qui sont les les gouvernants de France, du Mexique et puis je ne sais plus quoi où, ont réussi à circonvenir des organisations comme, l'IPPF, etc., comme des organisations de panique familiale internationale ou comme d'autres organisations, et à les faire rentrer dans leur... dans leur panel d'intervenants. Voilà, alors on verra bien ce qui va en sortir et s'il y aura quand même des gens qui vont utiliser cette tribune pour protester, mais bon, je suis un peu pessimiste là-dessus, quoi. Hein. J'ai un peu peur qu'on abandonne ce qui avait été vu. Au moment de la conférence de Rio de je ne sais plus trop quelle année, là, qu'est-ce que je disais, c'était celle de avant la conférence du Caire, excusez-moi, j'ai des trous de mémoire, là.